Je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 6, et le verset 43, c'est un verset qu'on connaît bien. Luc 6, verset 43. C'est une vérité d'ailleurs qui est tellement importante dans beaucoup de domaines, mais particulièrement dans le domaine spirituel. Alors que Jésus enseigne ses disciples, il leur dit ceci: « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Amen. » Chaque arbre se reconnaît à son fruit. C'est tellement simple. Surtout dans une région où il y a beaucoup de fruits, c'est une vérité qui est connue, mais combien c'est quelque chose d'important? Parce que souvent, malheureusement, on entend des personnes, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes fatigué d'entendre des personnes dire « Dieu est avec moi, alors je vais faire quelque chose », et quand on regarde le fruit de la personne, on se rend compte que ça correspond pas du tout à la parole de Dieu. Elle a beau dire « Dieu est avec moi », elle a beau dire « Dieu m'a dit », on entend souvent les gens qui viennent nous voir, et qui viennent consulter, même les pasteurs qui viennent s'entretenir, demander un conseil, mais ils arrivent « Voilà, Dieu m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et si c'est Dieu qui vous l'a dit, qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux conseiller de plus? Mais souvent, quand on commence comme ça, c'est pour excuser quelque chose que l'on dit nous-mêmes, malheureusement. Et il vaudrait mieux dire « Je pense que le Seigneur m'a dit ceci, mais je voudrais avoir la confirmation que c'est biblique. » Et là, je pourrais vous donner un conseil, par exemple. Mais les personnes qui arrivent et qui disent « Voilà, Dieu m'a dit !» Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est au fruit qu'on les reconnaît, si ça vient de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître cela? Comment est-ce que ça se passe quand on produit du bon fruit? Mais c'est comme dans la nature. Le fruit ne vient pas d'un coup. Il y a la semence qui est semée, et puis il y a tout un processus qui prend place, et la petite graine, à un moment donné, va devenir, au fur et à mesure du temps, va devenir un bel arbre qui produit du fruit. Mais ça prend du temps. D'accord? Et c'est la même chose pour nous de manière spirituelle. Et le Seigneur nous permet de passer par des chemins peut-être des fois difficiles, mais pour que nous puissions, dans ces moments-là, expérimenter quelque chose de la part de Dieu, expérimenter une action de sa main, du surnaturel dans nos vies, afin que nous puissions avoir dans notre cœur une conviction que Dieu est avec nous, et alors on va manifester le bon fruit. On va le voir au travers de trois exemples. Premier exemple, c'est le peuple d'Israël, qui à un moment donné, il fallait qu'il reconnaisse l'amour de son père, même dans l'épreuve. Est-ce que c'est facile de reconnaître l'amour de Dieu dans l'épreuve? C'est pas facile. Pour ceux qui sont passés par l'épreuve, ils le savent. Mais combien c'est bon, parce que ça met une conviction au fond de notre cœur. Et après, on peut traverser l'épreuve. Et après, en sortant de l'épreuve, on peut manifester le fruit d'amener la bénédiction sur ceux qui sont autour de nous. C'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Et on lit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2, ce qui se passe, quand Dieu est là, quand Dieu est au milieu de nous, son amour et sa providence sont aussi là. Le Seigneur, il pourvoit à nos besoins. On l'a chanté encore au travers de ces derniers chants. Le Seigneur est celui qui prend soin de nous. Et dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, regardez ce que Moïse est en train d'écrire à ce peuple. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Ouf. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et regardez, la conviction qu'il fallait qu'il grandisse dans le cœur de ce peuple. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Alors, on ne dit pas, on a un petit peu de mal à dire amen parce qu'on entend le mot châtie. Mais il faut bien comprendre ce qui signifie ce mot. Châtier, c'est pas taper. Châtier, c'est corriger, discipliner, instruire, réprimander. C'est-à-dire amener le petit enfant qui fait des bêtises, on le recadre. D'accord? C'est ça, châtier. C'est pas les châtiments corporels. Faut bien faire la différence. En tout cas, on pourrait traduire ce passage, reconnais en ton cœur que Dieu t'instruit comme un homme, comme un père instruit son enfant. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce qu'un homme corrige son enfant? Est-ce que c'est parce que ça lui fait plaisir? Ah, il a fait une bêtise, je vais pouvoir lui en mettre une. C'est comme ça que ça se marche? C'est comme ça que vous avez fait avec vos enfants? Vous êtes comme moi, quand il faut les corriger, vous savez qu'il faut que vous le fassiez, mais c'est comme si on vous arrachait le cœur, c'est comme si vous vous tapiez vous-même parce que c'est votre chair, mais vous savez que c'est bon pour eux de les corriger. Et vous êtes là, c'est pas une question de fessée, c'est surtout une question d'apprendre, que la petite enfant puisse apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de l'amour, un merveilleux amour, que le fait de ne jamais corriger son enfant, par exemple? Est-ce que c'est de l'amour, ça? Bien sûr que non. Parce qu'on sait les dégâts que ça occasionne. Une fois qu'ils sont grands, ils écoutent plus, ils rejettent tout, ils croient que tout leur est dû. Et non, on sait que parce qu'on les aime, la preuve qu'on aime nos enfants, c'est qu'on les corrige, on les instruit. C'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Reconnais l'amour de Dieu. C'est comme si Moïse était en train d'écrire ça au peuple. Reconnais l'amour de Dieu qui a pris soin de toi comme un père prend soin de ses enfants. Avec tout ce que ça implique. Avec les bons moments et toutes les délivrances qui a eu lieu. Il y en a eu quand même. Vous auriez pas aimé les vivre, hein, ces délivrances-là, hein? Au moins une. Rien qu'une des plaies, là, de voir ça directement en 3D, là. Quelque chose de merveilleux. Tout ça parce que Dieu prenait soin de son peuple. Mais regardez comment l'amour de Dieu s'est manifesté. On l'a lu dans ce passage, 40 années dans le désert. 40 années, et en plus dans le désert. Oui, mais on comprend pourquoi il y a eu l'humiliation et l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait au fond du cœur. Mais Dieu voulait pas juste savoir, hein, voyons ce qu'ils ont au fond du cœur, et puis c'est tout. Mais il voulait que ça, eux-mêmes s'en rendent compte pour qu'ils puissent changer. C'était surtout ça, parce que Dieu les aimait, il a fait ressortir au travers de différentes épreuves, les mauvaises choses qui étaient là, les travers qui étaient là, afin que le peuple se rende compte de ces choses et les délaisse. Et ça n'a pas été toujours le cas, malheureusement. Et si d'un côté il a fait souffrir de la faim, de l'autre il a nourri miraculeusement pendant 40 années. Tous les matins ils avaient le pain du ciel qui était posé devant leur porte. Le meilleur pain qu'on ait jamais goûté, je pense, il était posé devant leur porte. La manne qui était là. Vous avez remarqué aussi ça? Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Ton pied ne s'est point enflé. Vous avez déjà acheté des chaussures qui ne s'usaient jamais? Combien de temps ça met? 40 années, la chaussure, elle a tenu. 40 années, les habits ont tenu. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, c'est fini. Ça n'a jamais existé, d'ailleurs, si ce n'est dans la parole de Dieu, c'est un miracle, parce que le Seigneur, il a fait passer par le désert, ça a resté pendant 40 ans dans le désert, mais à chaque fois, le Seigneur a manifesté sa main pour répondre aux besoins de ses enfants. C'était pas par méchanceté, c'était par amour, parce que le Seigneur voulait les bénir. 40 années d'une protection surnaturelle, 40 années où le Seigneur a veillé, même dans les détails, sur les vêtements, sur les pieds. Des fois on marche, des fois on fait un peu de sport et on n'en peut plus. Vous savez, quand je vais avec les ados là à Montauban, il y a une heure de détente et ils font de la course, ils font toutes sortes de choses et je suis obligé de participer. Et ça fait que j'ai des courbatures et tout. Le lendemain, il y a des muscles que je ne savais pas qu'existaient qui me font mal. C'est comme ça que ça se passe. Et eux, pendant 40 ans, ils ont marché, le pied ne s'est jamais enflé. Est-ce que vous ne croyez pas que le Seigneur est bon? Et le Seigneur est plein d'amour. Et c'est ça que Moïse voulait qu'ils reconnaissent. Oui, il y a l'épreuve. Mais il faut qu'on ait la conviction que dans l'épreuve, il y a un Dieu qui est plein d'amour, qui veille, qui est au-dessus, et qui, si on a un besoin qui est plus fort que nous, le Seigneur va être celui qui pourvoit. Est-ce qu'ils avaient besoin de manger? Oui. Eh bien, le Seigneur pourvoyait. Est-ce qu'ils avaient besoin des vêtements qui durent? Oui. Le Seigneur le permettait, etc., etc. Et je réfléchissais à cette vérité. Mais si tous les chrétiens de France mettaient autant d'amour à se nourrir de la parole de Dieu, à faire de cette parole qui est vivante leur nourriture, comme c'est dit dans ce verset, ce qui sort la bouche de l'Éternel, s'ils mettaient autant d'ardeur que le repas du midi, simplement, il y aurait un réveil en France depuis longtemps. Vous croyez pas? Parce que des fois, on est plus intéressé par les choses matérielles. C'est bien de pouvoir avoir le repas, le poulet du dimanche midi qui sort du four, c'est super. Mais est-ce que la parole de Dieu est pas encore meilleure? parce qu'elle nous apporte cette vie spirituelle. 40 années dans le désert, combien est-ce qu'il y en a qui ont reconnu l'amour de Dieu? Combien est-ce qu'il y en a qui ont produit du bon fruit au travers de ces moments-là? 2. Combien ils étaient? Bon, ils étaient pas mal. Des milliers et des milliers. Il n'y en a que 2 qui ont appris la leçon. Il n'y en a que 2 qui sont sortis du lot et qui ont vu le pays de la promesse. Qui c'était? Vous le savez, Caleb et Josué. Josué, il est mort à 110 ans. C'est pas mal. Et juste avant de mourir, il a pu dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Jusqu'à la fin de sa vie, cet homme, il s'est tenu dans la présence de Dieu. Oui, il a passé 40 années dans le désert, mais on le voit jamais en train de râler, on le voit jamais en train de murmurer, on le voit toujours en train d'être soumis. C'était le serviteur de Moïse. Et quand il pouvait passer plus de temps dans la présence de Dieu, il y allait. Et le résultat, c'est que parce qu'il a reconnu qu'au travers de l'épreuve, il y avait l'amour de Dieu qui était là, qui veillait, il a pu amener la bénédiction. Et tout le temps de la vie de Josué, il est dit que tous ceux qui ont vécu pendant sa vie, ils sont restés dans la connaissance de l'Éternel. Et ils sont restés dans cette crainte de Dieu. Tout le temps où il y avait Josué, il a amené une faveur sur sa vie. Est-ce que Caleb, c'était différent? Caleb aussi, il a vu la terre promise. Et vous savez qui c'est le premier juge d'Israël? C'est le gendre de Caleb et c'est même le petit frère. Le petit frère de Caleb, c'est lui qui est devenu le premier juge, c'est-à-dire la première personne que Dieu a employée pour délivrer son peuple dans le pays d'Israël. Pourquoi? Moi, je pense qu'un jour, ce petit jeune, il était là, Othniel, et il regardait son frère qui a tenu bon, qui était un des deux espions à revenir, à dire « Oui, oui, le pays est pour nous !» et voir tous les autres qui disaient n'importe quoi. Et ce frère a été impressionné de voir cet homme qui était animé d'un autre esprit, cet homme qui était là, qui avait compris que oui, il y avait des combats, oui, il y avait des épreuves, mais l'amour de Dieu règne au-dessus de tout ça. Si l'ennemi vient sur nous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel nous dit la parole, il va le mettre en fuite. Et cet homme le savait, c'est pour ça qu'il s'est accroché, c'est pour ça qu'il a pu être une bénédiction, non seulement pour lui, il a conquéri les... Vous trouvez le mot, j'arrive pas à le conjuguer. Conquis, voilà peut-être. Il a conquis la portion de Judas et en plus il a amené la bénédiction au travers de son frère. Est-ce que nous sommes capables d'entendre dans la souffrance la voix de Dieu qui nous dit qu'il nous aime? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître dans l'épreuve l'amour de Dieu, d'avoir cette conviction? C'est pas quelque chose qu'on remet en question. On le sait, c'est comme ça. Le Seigneur m'aime. Et oui, si je passe par des temps difficiles, il y en a. On en a tous, mais je sais que le Seigneur est puissant pour me garder au milieu. Et si j'ai cette conviction au fond de mon cœur, alors je vais produire ce bon fruit. Est-ce que c'est pas merveilleux de voir quelqu'un qui passe par l'épreuve en train de lever la main et de dire « Seigneur, je te bénis, je t'aime, je sais que tu m'aimes Seigneur, je sais que tu es là ». Combien c'est merveilleux quand quelqu'un qui passe par la maladie est capable d'élever son cœur vers le Seigneur. Et des fois, vous savez, on va voir des personnes, ça m'est arrivé d'aller voir des mamies qui passent par une maladie très compliquée, et c'est elles qui nous font du bien, parce qu'elles donnent des bonnes paroles. Non, elles louent leur Seigneur, elles disent « ma vie est entre ses mains, il me reprend quand il veut, il n'y a aucun problème ». Puis des fois, des personnes qu'on va visiter, elles ont tout. Elles ont les docteurs qui viennent à domicile, l'infirmière, le pharmacien, tout le monde vient à domicile, les repas, tout, et elles font que se plaindre. C'est là qu'on voit la différence. Bien sûr, le Seigneur fait grâce, mais comme c'est bien. Et le Seigneur peut nous permettre de produire ce bon fruit, d'amener la bénédiction autour de nous, si nous reconnaissons son amour. Deuxième texte, Josué, chapitre 3, verset 9. On continue de parler de Josué. Cette fois-ci, c'est juste avant qu'il rentre dans le pays de la promesse. Moïse est allé vers le Seigneur et Josué devient le chef d'Israël. Et dans ce chapitre 9, c'est le moment où ils doivent traverser le Jourdain, vous savez. Combien c'est bon dans ces moments de savoir que si Dieu est au milieu de nous, nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. C'est ce qu'ils vont expérimenter ces personnes. Josué chapitre 3 verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera de vous, devant vous, les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. On va au verset 20 du chapitre 4. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. » Quand Dieu est au milieu de nous, alors on peut remporter des victoires sur des choses qui nous dépassent. C'est une preuve, c'est un des fruits qui se manifestent. Et d'abord, il faut admettre qu'il y a un combat. Est-ce que vous avez des combats ? Est-ce qu'il y a comment qu'il y ait des combats ? D'accord, on en a tous. Je ne suis pas le seul, je m'en doute. On a tous des combats. Mais on a tous des façons différentes de réagir dans le combat. Combien c'est bon de savoir que quand il y a le combat, le Seigneur est au milieu de nous. Regardez quelques chapitres après, quand Josué va vers Jéricho, vous savez qu'il passe du temps à prier, et puis à un moment donné, il s'approche de la ville, et il voit qui ? Il voit l'ange de l'Éternel. Il voit le chef de l'armée de l'Éternel. Est-ce que ça vous rassure pas ? Josué, il arrive pour combattre la ville, il voit qu'il y a Dieu qui est là en personne. Enfin, il a dépêché un ange pour pouvoir combattre. Moi, c'est quelque chose qui me rassure. Et c'est ce que le Seigneur veut manifester. Il veut que dans nos combats, il puisse être au milieu de nous, il puisse nous donner cette capacité d'avoir la victoire parce que lui a remporté la victoire. Il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, je faisais un petit peu un listing des situations compliquées. Et je faisais une liste comme ça. Et je ne vous les citerai pas parce que c'est quand même assez personnel. Où ça touche l'église, pour mettre personne mal à l'aise. Mais plusieurs situations où c'est compliqué. Et où moi, je suis très limité. Ça vous arrive aussi d'être limité face aux situations difficiles ? Et je faisais le listing. Et la liste s'allongeait au fur et à mesure. Et je faisais pas sur un papier, je le faisais dans mon esprit pendant mon temps de prière. Et puis, je me suis mis aussi à faire le listing de toutes les fois où Dieu a manifesté son secours sans que l'armée d'Israël puisse combattre. C'est Dieu qui a combattu à la place. Et quand on regarde la parole de Dieu, on a étudié un petit peu le mardi et pour ceux qui viennent à la prière, on a vu tous ces passages où le Seigneur est intervenu en faveur de ses enfants sans que eux bougent le moindre petit doigt. Et quand j'ai considéré ça, j'ai dit, Seigneur, tu vois ma liste que je t'ai adressée, Seigneur, occupe-toi. Moi, je peux rien faire. Moi, je suis incapable. Mais par ton esprit, par ta puissance, par, Seigneur, ta main déployée, Seigneur, oui, je crois que tu es puissant pour intervenir. Il faut que vous sachiez, et c'était le but de la traversée du Jourdain, afin que les peuples sachent que la main de l'Éternel est puissante. Est-ce que ce n'est pas bon de savoir que, oui, s'il y a des combats, d'avoir la conviction dans notre cœur que la main de l'Éternel, elle est puissante, et que le Seigneur est capable, lui, du petit doigt, de débloquer la situation. Là, il y avait le Jourdain qui était un blocage. Le pays de la promesse était après. Il allait avoir des combats. Et vous avez vu que c'est une preuve que quand on est dans la vie chrétienne, il y a des combats. C'est exactement cette image qui est donnée. Mais pour y aller, pour traverser, il fallait que le Jourdain soit ouvert. Comment ça s'est passé ? L'arche qui symbolise la présence de Dieu est passée devant. Ça symbolise Jésus-Christ aussi qui est passé devant. Ça symbolise Jésus-Christ qui a dû aller dans les eaux, contre les eaux du jugement, contre les eaux du péché et de la mort, qui a dû y passer afin qu'il y ait un passage pour nous, afin qu'il y ait un chemin. Et si nous pouvons traverser, si nous pouvons accéder au pays de la promesse, c'est seulement en Jésus-Christ. Caché en Jésus-Christ. J'aime cette image d'un petit enfant qui se cache derrière son père. Et c'est exactement ce qu'il nous faut faire. caché en Jésus-Christ, si nous traversons là où est le Seigneur, le chemin, la vérité, la vie qui conduit vers le ciel, alors nous pouvons remporter des victoires. La présence de Dieu au milieu de nous n'est possible que parce que Jésus a donné sa vie. C'est cette image qui est là. Sa main puissante dans nos vies ne va se manifester que si nous cherchons le Seigneur au pied de sa croix. C'est pas facile de venir à la croix. Il faut reconnaître son péché, il faut reconnaître ses torts. Mais c'est que par là que ça passe pour aller au pays de la promesse. Si nous voulons que remporter des victoires face à tous nos combats, on a dit ensemble qu'il y en avait beaucoup, il faut passer par la croix, par ce chemin étroit. Mais combien bénissant. C'est sûr, si on regarde que au niveau du chemin étroit, ça donne pas envie. Souvent, on parle de la mort à soi-même, on parle des choses qui nous font peur un petit peu. Mais parce qu'on ne regarde pas ce que ça produit. Il faut regarder aux fruits. On reconnaît l'arbre à son fruit. Et si on passe par ce chemin qui est étroit, difficile, rocailleux, c'est parce qu'après, il y a la grâce de Dieu, la présence de Dieu qui nous permet de remporter la victoire. Est-ce que nous pouvons remporter la victoire sur la maladie? Oui. Pourquoi? Parce que Christ a porté nos maladies. Est-ce que nous pouvons remporter la victoire sur le péché? Oui, parce que Christ a apporté nos péchés à la croix. Est-ce que nous pouvons remporter la victoire sur l'adversaire? Oui, parce que l'adversaire a été jugé à la croix. Et sur toutes les dominations et les autorités, toutes ont été jugées, dépouillées de leur puissance au moment où Jésus a donné sa vie. Et je termine avec cette pensée. Montrer le fruit de Dieu dans nos vies, ça passe par reconnaître son amour et amener la bénédiction. Ça passe par accueillir la présence de Dieu dans nos vies et avoir les victoires dans nos combats. Mais ça passe aussi par ce retour au Seigneur de tout notre cœur dans un roi. On va pas lire toute l'histoire. C'est l'histoire, vous savez, d'Élie avec les faux prophètes. Un roi, chapitre 18. Nous voyons quelque chose qui se place, une conviction qui s'est installée dans le cœur de ce peuple qui était pourtant dans une telle désolation, dans un temps d'idolâtrie incroyable. Mais le fruit qui a montré qu'il y avait la présence de Dieu, c'est qu'ils sont tous retournés à Dieu et ils ont tous abandonné les idoles. Vous savez comment ça s'est passé? On va juste lire un petit verset, c'est le verset 36. Les faux prophètes ont fait toute leur simagrée et puis il n'y a rien qui s'est passé. Et puis c'est le moment où Élie arrive. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et combien, quand je lis ce texte, je le compare à l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais est-ce que nous sommes dans un temps d'idolâtrie? Est-ce que nous en sommes dans un temps? Bien sûr, je ne parle pas seulement du monde, je parle dans l'Église. Est-ce que nous ne sommes pas dans un temps d'idolâtrie? Vous savez, je réfléchissais à ces choses, on en discutait aussi avec ceux qui suivent les instructions. Mais souvent, on croit que l'idole, c'est ce qui prend le plus de temps. Et c'est vrai. Mais des fois, l'idole, c'est ce qu'on met au même niveau que le reste. Par exemple, si on met le Seigneur au même niveau que notre famille et que nos loisirs, on est des idolâtres. Pourtant, on continue d'aller à l'église, on continue de prier, de lire la Bible, mais on met au même niveau, au même rang que le reste. Dieu n'a pas la priorité dans notre vie, alors on est un idolâtre. Et quand on regarde cette réalité, alors on peut dire oui, nous sommes dans ce temps-là d'idolâtrie. On voit tellement de chrétiens qui ont abandonné Dieu. Et je réfléchissais que ce temps où j'étais étudiant, je me rappelais que je voulais inventer un outil. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait le faire avec les mondes connectés, là. On pourrait inventer quelque chose qui mesure le temps qu'on passe et à quoi on le passe. Et en tout cas, moi, je n'avais pas ça. Ça n'existait pas. C'était ancien. Je suis plus si jeune que ça. Et en tout cas, je voulais inventer un outil, mais comme je l'avais pas, je notais tous les soirs, à la fin de ma journée, je notais ce que j'avais fait dans la journée. Alors je lisais, je marquais, ben, je sais pas, 5 heures de cours, 1 heure de téléphone à une certaine Laure. Vous doutez qui c'est mon épouse. c'était ma fiancée à l'époque. Hein. Et qu'est-ce que j'ai marqué? 2 heures de télé. Des fois, vous savez, quand on fait le listing un petit peu aussi, des choses à quoi on utilise notre temps, je me suis rendu compte, 2 heures de télé. Dis donc, quand on y est, on dirait pas. Mais ça passe tellement vite. Une heure d'ordinateur ou 2 heures. Aujourd'hui, ça serait tellement différent. Et la prière. 10 minutes de prière. Lecture de la Bible, 5 minutes. Et après, j'étais capable de dire à l'église, oui, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon seul Dieu. Et après, je regarde la feuille, je dis, mais c'est n'importe quoi. Je dis quelque chose au Seigneur et ça correspond pas. Vous comprenez? Des fois, on a tendance à dire des choses à Dieu, mais dans les pratiques, on le fait pas. Alors depuis j'ai arrêté de faire ça, mais par contre ça m'a permis de mettre de l'ordre dans ma vie. Ça m'a permis de voir là où j'étais vraiment, là où je passais vraiment du temps. Et je m'empressais, si j'allais à une réunion, je m'empressais de le rajouter pour que ça fasse bien d'un côté spirituel, vous voyez. Mais le Seigneur il sait. Alors il n'est pas question de passer des heures dans la présence de Dieu. C'est pas ça dont je parle. Mais c'est de donner à Dieu la priorité. Il faut que Dieu ait la priorité dans notre vie. Sinon, on est des idolâtres. C'est comme ça que ça marche. Si Dieu n'a pas la priorité dans notre vie, si nous n'avons pas un amour brûlant pour Dieu, un zèle, si nous n'avons pas une passion pour Dieu, alors nous sommes des idolâtres. Le Seigneur, il a dit, les tièdes, il va les vomir. Il vaut mieux qu'on soit bouillant ou froid, mais les tièdes, il va les vomir. C'est quelque chose qui m'a tellement parlé. Et qui me parle encore, Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un de tiède. Je veux reconnaître, comme ces hommes, il a fallu qu'il y ait un acte surnaturel de Dieu pour que ces hommes reconnaissent que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qu'il faut adorer. Au temps d'Israël, c'était, oui, il y avait les Baals, il y avait les Astartés, mais il y en a qui continuaient aussi à adorer Dieu. Mais ils le faisaient en même temps que le reste. Non, 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 Seigneur, moi je veux adorer Dieu. En premier. Les choses de la vie, il faut prendre du temps, c'est normal, il faut pas être déséquilibré non plus. Mais il faut mettre Dieu en premier. Parce que c'est ça que Dieu demande. C'est ça, quand on reconnaît la majesté de Dieu, c'est ce qui se passe. Quand on reconnaît que Dieu est le Dieu créateur, et alors il y a la crainte qui nous saisit, alors on n'a qu'une envie, c'est plaire à notre Dieu et faire sa volonté. Le miracle qui s'est passé, le feu est descendu sur le sacrifice. Pour que je puisse être rempli de l'esprit et avoir ce cœur bouillant pour le Seigneur, il a fallu qu'il y ait un sacrifice qui reçoive le feu du jugement. Encore une fois, c'est Jésus à la croix. Et maintenant, je peux recevoir, moi, sur ma vie qui est offerte en sacrifice, je peux recevoir non pas le feu du jugement, mais le feu du Saint-Esprit dans ma vie qui va amener la bénédiction, encore une fois, sur ceux qui sont autour de moi. Regardez cet homme, Élie, qui est là. Il prie, Seigneur, tu vois, je ne fais que mettre en pratique ta parole. Tout ce que j'ai fait, c'est selon ta parole. Seigneur, maintenant, manifeste-toi. Honore ta parole, Seigneur. Et quand des hommes et des femmes choisissent de faire ça, d'offrir leur vie, de dire « Seigneur, j'ai honoré ta parole, maintenant manifeste-toi », qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur déploie sa main puissante et les cœurs des personnes qui étaient autour, les cœurs des rétrogrades, les cœurs des idolâtres ont été ramenés à Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, c'est pas ce qu'on a envie de vivre pour nous déjà, mais aussi pour tous les gens qui sont autour de nous, que les idolâtres puissent revenir à Dieu, et réaliser que oui, l'Éternel est Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un miracle. Le miracle, c'est celui de Jésus-Christ, mais c'est aussi celui des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils ont offert leur vie en sacrifice, vivant au Seigneur. Amen. On va partager la Sainte Cène ensemble. Combien c'est bon, je rappelle rapidement, de reconnaître l'amour de notre Père quand nous sommes dans l'épreuve. Combien c'est bon de reconnaître que sa main est puissante face à tous les ennemis que nous pouvons rencontrer. Combien c'est bon aussi de reconnaître que Dieu est majestueux, Dieu est le seul vrai Dieu, et qu'on abandonne les idoles. Mais à un moment donné, un texte nous dit que les gens n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous connaissez ce texte? Quand Jésus a donné sa vie. La plus belle action, le plus beau miracle que Dieu ait fait, c'est d'envoyer son fils. Mais à un moment donné, quand il est venu, ni les chefs religieux, ni la foule qui a crié qu'il soit crucifié, ni ses disciples qui se sont enfuis, qui l'ont trahi, qui l'ont renié ou abandonné, ils n'ont reconnu le bras de l'Éternel. Et puis si nous avions été à leur place, nous aurions fait la même chose. Pourtant, le Seigneur a choisi d'aller à la croix, parce qu'il savait tout ce que ça allait impliquer. Si la main de Dieu est puissante aujourd'hui pour nous délivrer, c'est parce que Jésus est allé à la croix. Oui, qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Ce matin, nous voulons reconnaître le bras de l'Éternel. Nous voulons reconnaître que sa main est puissante, que son amour est immense envers nous. Nous voulons reconnaître que, oui, il y a des combats, il y a des épreuves, mais que Dieu veut être au milieu de nous et nous voulons manifester ce fruit divin dans nos vies. Ô Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ces moments. Nous voulons, Seigneur, oui, avoir cette conviction au fond de notre cœur que tu es plein d'amour pour nous. Même dans l'épreuve, Seigneur, tu es plein d'amour. Tu es celui qui pourvoit. Même dans la difficulté, Seigneur, tu es celui qui combat pour nous. Seigneur, dans ces instants, nous voulons te bénir pour le sacrifice de Jésus et reconnaître là le bras de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, te bénir parce que tu nous as donné accès à la présence de Dieu. Tu nous as donné accès au Saint-Esprit. Tu nous as donné accès à l'héritage réservé aux saints, Seigneur. Dans ces instants, nous pouvons bénéficier de toutes ces choses, mais nous voulons nous souvenir du prix incroyable qui a dû être payé à cause de nos péchés. Seigneur, merci. Reçois, oui, la reconnaissance, reçois l'adoration éternelle. Que, Seigneur, dans ces instants encore, tu puisses être béni et loué. C'est alors que nous allons partager ce repas, Seigneur. Fais du bien encore au cœur. Tu vois ceux qui sont dans des combats, ceux, Seigneur, qui ont fait aussi une liste de toutes les choses qui les dépassent. Seigneur, qu'ils puissent aussi reconnaître que ta main est puissante pour les en sortir de ces combats. Ô Éternel, fais du bien dans ces instants. Tu connais ceux qui sont dans la maladie. Tu connais ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur. Ô Jésus, travaille les cœurs maintenant et donne, Seigneur, communique par le Saint-Esprit la force dont ces personnes ont besoin pour s'en sortir. Ta parole est une nourriture, Seigneur. Et nous voulons nous nourrir que de cette chose-là, de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ô, dans ces instants, fais ton œuvre, Jésus. Tu vois, cette personne qui se dévalorise, cette personne qui regarde avec ses propres yeux sa vie, Seigneur, bénis-la, donne-lui de regarder avec tes yeux à toi, Seigneur, les choses. Seigneur, donne-nous d'avoir ce regard de la foi sur les situations qui nous entourent. Oh, et que ta main se manifeste au milieu de nous. Alléluia.